Bonjour tout le monde et bienvenue à notre segment de cette semaine. Écoutez, ça va faire quand même un petit bout de temps que je ne me suis pas présenté en studio et quel plaisir de revoir toute l'équipe en cette semaine du mois d'août. Écoutez, cette semaine à l'émission, je reçois et discute surtout avec Carole Martel. Comme vous savez, Carole est une militante et une grande, on dirait, défendresse. Est-ce que ça se dit, ce terme-là?
Oui.
D'accord. De faire l'école à la maison et qui, quand même, croit à ce système qui donne une autre option aux parents en ces jours-ci. Alors, Carole, bienvenue.
Hey, merci beaucoup, Antonio, pour l'invitation.
Bien, écoute, ça fait plaisir. Et puis, merci d'être celle avec qui on brise la glace, qu'on dit ici au Québec.
Parfait. Tu reviens en scène.
Oui, je reviens en scène avec.
Merci. On s'est ennuyé.
Ah, écoute, moi, je me suis ennuyé. Puis bon, c'est une façon pour moi de m'impliquer. Puis c'est sûr que dans les prochaines semaines, maintenant que le temps va me le permettre, je vais de plus en plus revenir aux sources afin de pouvoir donner un coup de main. Parce que oui, je suis un père de famille. Oui, je crois à la protection des enfants, parce que c'est une priorité, c'est un devoir de chaque parent de protéger ses enfants. Et c'est la raison pour laquelle je me présente comme ça et puis que j'essaie de plus en plus de permettre à des gens d'avoir des plateformes. Alors, Carole, depuis le temps et puis avec la rentrée des classes qui avance à grands pas, veux-tu parler un petit peu de qu'est-ce qui va se produire et qu'est-ce qui va se passer et quelles sont les différentes démarches que les gens vont pouvoir avoir dans le retour à l'école?
Le retour, la rentrée 2021. Bien, premièrement, t'es pas le premier à mettre un peu plus d'essence dans le véhicule pour revenir en force, parce que oui, on a besoin d'être nombreux pour cette rentrée scolaire qui est inquiétante, qui est annoncée de façon assez ferme dans les restrictions que les enfants auront à vivre. Et aussi, cette obligation vaccinale qui, on ne pourra pas la nier, inquiète énormément la plupart des parents. Donc oui, je suis à la défense de l'école à la maison, pas parce que je suis pour un programme ou pour un autre, mais c'est simplement que quand on regarde au point de vue de ces lois, de ces droits, de la protection de la jeunesse et tout ce qu'on doit, tout ce que le parent se doit de faire pour protéger l'intégrité physique et psychologique de l'enfant. Donc, c'est certain que l'établissement scolaire, en ces temps incertains, si nous avions un gouvernement le moindrement sensé sur les besoins de l'enfant, il agirait tout à fait autrement. Et il y a plusieurs parents qui en sont de cet avis et qui aimeraient vivre une différente rentrée scolaire, sans la peur, sans l'inquiétude qu'on puisse prendre leur enfant, entre autres, comme expérimentation, finalement.
Regarde, tu as sorti quelque chose brièvement qui semble un peu choquant. C'est la vaccination obligatoire. Il y a une chose que j'ai d'habitude à comprendre, puis j'aimerais ça que tu expliques un peu aux gens qui nous écoutent. Comment se fait-il qu'on est rendu dans une société où que l'on permet, qu'on donne tous les droits à un groupe d'individus qui, entre guillemets, dirige, de pouvoir injecter peu importe ce qu'ils veulent à l'intérieur du corps de quelqu'un? Parce que j'ai eu une discussion avec quelqu'un qui essaie de me convaincre de faire ci, de faire ça, d'aller me faire vacciner ou quoi que ce soit. Je ne parlerai pas de ma santé ici aujourd'hui. Mais comment se fait-il que des parents sont rendus là?
Je pense que c'est une remise en question de la société. Parce que dès la naissance, il y a des gestes médicaux dans lesquels on injecte des produits chimiques et dangereux dans le corps des femmes enceintes qui vont déjà, dès la naissance, s'en prendre aux enfants. Donc, côté questionnement de la santé, de savoir ce silence, cette omerta médicale, je pense qu'elle a été bien rodée au Québec. Et je pense que les parents manquent simplement et purement d'informations. Et c'est ce qui est reproché, d'ailleurs, à cette campagne vaccinale qui est une propagande, c'est que le parent se doit d'avoir un choix éclairé. Il se doit, et c'est bien aussi demandé et exigé par les autorités, de pouvoir permettre aux parents d'avoir toutes les informations et de pouvoir faire un libre choix.
OK. Donc, tu parles d'informations. Mais par moment, comme un peu tout le monde, on rencontre des gens ici à droite, à gauche, on discute un petit peu, on amène une opinion. Mais j'ai l'impression de plus en plus, et même lorsqu'on leur donne des liens ou de l'information, que beaucoup de gens refusent ces informations-là. Parce que la minute que tu essaies de leur dire, regarde, il y a une autre ordre de pensée, il y a d'autres informations qui pourraient te faire réfléchir, ils cherchent tout de suite à discréditer ce qui leur est apporté. Alors, comment se fait-il que même avec cette information-là, ici au Québec, parce que je peux pas parler pour ailleurs, donc comment se fait-il que les
Ailleurs dans
gens...
le monde, on ne vaccinera pas les enfants. Donc, ta question est encore plus dérangeante. Ça veut dire que les adultes vont laisser faire ça. Ils font pas juste l'imposer en tant qu'adultes, ça ne les regarde pas du tout. Ils vont laisser faire cette vaccination-là chez les enfants. Et côté peuple, c'est une honte qu'on soit un peuple qui se taise justement. Puis là, tu me racontes qu'ils vont jusqu'à vous amener des propositions pour croire que c'est bon, la vaccination. Donc oui, on a un très gros problème. Puis je n'ai aucune réponse à t'apporter. Je ne côtoie aucune personne vaccinée. J'en ai pas encore rencontré, à part Isabelle à la manifestation qui, elle, en tant que double vaccinée, elle s'est quand même aperçue de l'arnaque et elle a décidé de parler et de comprendre que toute cette histoire qui est montée, c'est de l'hypnose de masse. Et c'est très facile à comprendre, mais c'est ça. Je pense qu'il y a un voile vraiment au-dessus de l'intégrité des êtres qui sont pris là-dedans. Puis je sens que ce voile se retire peu à peu. Mais il faut d'abord se concentrer comme toi, comme les autres, comme les gens qui travaillent pour la vérité. Il faut se concentrer sur cette vérité qui menace nos enfants de 5 à 12 ans. C'est quand même mondialement quelque chose qui s'est jamais produit. Quand on parle d'expérimentation, c'en est toute une. Je vois des parents qui ont des enfants vaccinés, j'espère que vous les surveillez parce que lorsqu'on parle de phase 3 dans la vaccination, c'est une phase où on fait l'expérimentation sous contrôle médical. Et ce contrôle médical-là n'est pas appliqué en ce moment. Il est injecté dans une population sans contrôle médical. Donc, cette phase d'expérimentation 3 se doit d'être énumérée et se doit d'être faite en laboratoire sous surveillance. Et ce n'est pas du tout ce que les gouvernements du Canada ont décidé de faire, et encore moins ceux du Québec. Donc, c'est cette dangerosité de l'ensemble de cette injection qui est vraiment à dénoncer. Parce que si cette injection est expérimentale, c'est interdit au Canada de faire des expérimentations sur des enfants mineurs. Point barre à la ligne.
Écoute. Tu sais, on pourrait en discuter parce que, bon, il semble que c'est un sujet d'actualité puis quelque chose qui peut durer. Écoute, on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Mais parlons sur une autre ordre d'idée, un petit peu de façon plus positive, ta démarche pour.
Pour les solutions.
Pour les solutions, donc l'école à la maison.
L'école à la maison, bien sûr, qui est venue l'année passée quand j'ai vu cette obligation du port du masque. Je me suis mis à la place d'une maman, d'un enfant qui rentrait en maternelle et j'ai fait non, moi, j'accepterai pas que mon enfant soit masqué. J'ai donc entrepris les démarches pour pouvoir aider les parents à le faire parce que moi-même, je connaissais rien. Je me suis aperçue qu'il y avait des lois, je me suis aperçue qu'il y avait des organismes, je me suis aperçue que les parents étaient éparpillés là-dedans, mais d'une façon difficile à suivre. J'ai fait, ils n'y arriveront pas. Alors, j'ai bâti l'école bienveillante. Qui, dans cet ensemble, qui est le mouvement pour la défense des enfants, regroupe les outils, premièrement, d'information. Et deuxièmement, si c'est le choix qui est entrepris par le parent de faire l'école à la maison, pardon, ben qu'il sache qu'est-ce qui lui est permis de faire. Ils ont tous des situations différentes. Donc, c'est de leur offrir à chacun des façons d'y arriver. Parce que de ces façons différentes-là, il y a toutes les difficultés qui viennent avec. Et présentement, il y a très peu de familles et de foyers québécois qui ne vivent pas des difficultés. Si on parle des mamans qui sont dans les soins de santé, on est compatissant avec elles et qu'est-ce qu'elles sont en train de vivre. Donc, on se doit de lui apporter notre aide si elle veut aussi protéger ses enfants. Donc, ce mouvement de bienveillance est bâti autour des besoins d'un parent qui n'avait pas choisi de faire l'école à la maison, mais qui se devra de relever ce défi pour accomplir son devoir de parent éducateur, pour le faire du mieux qu'il peut en mettant de la seule façon légale son enfant en sécurité.
Écoute, une dernière question, parce que comme je te dis, on est toujours limité dans le temps aussi, c'est depuis que tu milites, je vois l'énergie que tu mets, je vois ton implication. Je me demande aussi, bon, le gouvernement, lui, étant donné qu'il suit un narratif, qu'il s'en va dans une direction, est-ce que tu as ressenti de la pression? Est-ce que tu as eu un genre de questionnement qui se faisait de l'instance à l'opposé de qu'est-ce que toi tu veux faire? Je ne sais pas si tu comprends un peu ma question dans le sens que, parfait, tu milites, tu défends cette situation-là. Est-ce que, au niveau du gouvernement, tu as eu de la pression? Est-ce que, au niveau des différents organismes, est-ce que tu as de la pression par rapport à qu'est-ce que tu fais? Parce que on devient tous, d'une certaine façon, un grain de sable dans l'engrenage, là, à chaque fois.
Je m'efforce à chaque jour d'être un grain de sable dans l'engrenage. Fortement. Mais non, j'ai pas. J'ai des petits trucs, là. C'est sûr qu'au niveau de mon médium pour rejoindre les gens, je suis extrêmement, extrêmement restreinte. C'est en est ridicule, là, tellement que c'est évident que la censure ne bâillonne que la bouche de celle qui dit la vérité. Ils sont extrêmement sur les dents côté nos réseaux sociaux. Mais côté. Je pense que je fais une juste job. Je pense que j'aide et j'accompagne les parents à faire ce que le gouvernement leur demande de faire. Donc, je ne vois pas encore cette pression. J'espère que parce que tu en parles, ça ne m'arrivera pas.
Oui, écoute, à un moment donné, ce n'est pas moi qui va déclencher quoi que ce soit. S'il y a une pression à venir, que j'en parle, que j'en parle pas, c'est pas moi qui va contrôler ça.
J'espère créer un mouvement de choc à l'automne, que tous les parents, que ce mouvement qui va avec le boycott qu'on veut établir à l'échelle nationale ce 1er septembre, on veut arrêter les commerces, arrêter les camionneurs. On voudrait aussi de l'aide pour pouvoir faire des chaînes humaines, de faire des manifestations parce qu'on manifeste grandement cette journée-là. Donc oui, je me demande si on ne pourrait pas faire un geste ébranlant pour dire, nous, les Québécois, on va s'en occuper de l'éducation de notre enfance parce que toi, tu n'as pas l'air à t'en occuper de leur sécurité puis de leur intégrité physique. Puis toi, le psychologique de ce que mon enfant vit, tu n'as pas l'air à t'en soucier non plus. Puis le manque d'oxygène, puis le port du masque, puis la ségrégation, c'est vraiment des valeurs et des chaînes vers lesquelles ils se dirigent qui ne nous intéressent pas. Si c'est leur nouvelle normalité, ce n'est pas la nôtre. Et tant qu'il n'y aura pas ce débat, tant qu'il n'y aura pas ces échanges, tant qu'il y aura cette illégalité face aux décrets qui sont amenés de semaine en semaine de façon illégale, sans nous laisser notre droit de parole, et surtout aux parents en ce moment qui se doivent d'être protégés davantage et d'être mieux informés, je pense que j'espère les ébranler et que ma voix porte jusqu'au bureau de M. Roberge.
Écoutez, Karen, c'est toujours intéressant quand je discute avec toi parce que Moi aussi, je viens chercher de l'information parce que, bon, je m'éduque en même temps en échangeant avec les différents invités. Vous savez, moi, il y a une chose que je trouve dommage et que je dirais toujours est difficile à accepter. C'est pratiquement, et ce n'est pas un jugement, c'est simplement une opinion, c'est de voir l'indifférence des gens qui devraient être en première ligne, les professeurs, les directeurs. Comment se fait-il que c'est honteux que ces gens-là ne regardent pas l'autre côté de la médaille, qu'ils ne se questionnent pas? Que font ces gens-là? Et c'est une des questions que je n'ai pas arrêté de me poser depuis le début, d'accord? Où sont les syndicats des professeurs? Comment se fait-il qu'ils sont capables de se retourner et d'accepter de voir des enfants masqués lorsque le sourire, l'expression faciale, on n'a pas besoin d'être diplômé universitaire, on n'a pas besoin d'être des scientifiques ou des médecins ou quoi que ce soit pour savoir ces choses-là. C'est la base. Donc, est-ce que ces gens-là méritent d'être des éducateurs? Est-ce que ces gens-là méritent d'être des directeurs? Comment se fait-il que ces gens-là ne répondent pas à leur engagement premier qui est de protéger les enfants?
L'imputabilité. Mais je pense que cette onde de choc-là va vraiment produire énormément de réflexions auprès des parents et de ce système scolaire. Parce que je m'efforce aussi d'éduquer sur la provenance de ce système scolaire, de ceux qui ont mis en place C'est cette réforme, finalement, qui a été construite de toutes pièces par un gouvernement corrompu. Et c'est ce qu'on en paye le prix aujourd'hui. Roberge a été mis là en place il y a bien des années pour établir ce plan que nous vivons aujourd'hui. Donc, il faut s'en débarrasser. Il faut simplement s'en débarrasser. Il faut qu'il soit sorti. Il faut que ça soit nommé. Puis c'est pas vrai que si on met quelqu'un d'autre en place, ça va être du beau et du joyeux. Et les élections n'ont rien à voir dans tout ça. C'est vraiment autrement qu'il faut s'en sortir. Premièrement, le système d'éducation, c'est ça. Il fait partie d'un problème politique très, très ancien. Mais tu sais, malgré tout ça, là, malgré qu'ils nous prennent au piège, malgré qu'ils nous menacent de nous enlever nos enfants, malgré qu'ils menacent de vacciner nos enfants, il y a quand même cette solution qui est encore là. C'est ce projet d'école à la maison qui reste légal. Alors, c'est pour ça qu'on a construit tout ce projet-là. C'est quelque chose que j'ai mis en place, mais il y a tellement du monde merveilleux, extraordinaire, qui ont fait « oui, j'embarque ». Fait que là, cette année, on ne le réservera plus qu'à une petite masse de parents qui n'en savaient rien. Mais ça va être exponentiel. Et tous les parents du Québec pourront entendre parler de cette solution. De cette solution qui était mise de côté, de cette solution qui est accessible à tous. Il y a beaucoup de choses à partager et de problèmes à régler, mais c'est pour ça qu'on lance ce projet d'école bienveillante avec l'aide de beaux collaborateurs, de grands collaborateurs, et on répond question par question à chacune de vos interrogations afin que vous puissiez vivre la réussite de ce projet éducatif. C'est votre enfant. Vous avez ce potentiel de l'élever à sa juste valeur. Et c'est une belle expérience à vivre aussi. Puis on n'en sait pas dans 6 mois où est-ce qu'on en sera. Fait que ça peut être aussi très bien une très belle solution de rechange. Mais ça peut être aussi une façon de dire non. Je n'embarque pas dans ce qu'on me demande d'imposer à mon enfant. Non, vous avez atteint ma limite. Et ça peut être étant par les professeurs, les enseignants, les directions d'école. Nous, vous avez atteint votre limite. Et c'est ce que nous espérons créer comme mouvement. La marche du 28 et cette marche des professionnels qui seront là. Tous ces enseignants, ces enseignantes, tous ceux qui travaillent dans le domaine de l'éducation vont appuyer le domaine de la santé. Les policiers vont se joindre à nous pour que dans une seule voix, on le crie haut et fort. Nous sommes des professionnels, c'est notre travail de prendre soin des enfants et nous n'acceptons plus cette dictature. Ce sont des règles coercitives inacceptables et les enseignants n'ont plus à l'accepter.
Écoute, Chiara, c'est un grand plaisir. Et puis, moi, je vais terminer sur une note en disant, vous savez, j'ai des discussions à tous les jours avec du monde. Et qu'est-ce qui revient le plus souvent, c'est le refus de croire que des gens en position de gestion et de contrôle n'ont aucune chance d'être corrompus ou criminels. Et ça, c'est inacceptable d'une société. Parce que si les gens continuent à croire cela, il n'y a plus rien à dire. Parce que dans tous les domaines, à tous les niveaux,
absolument.
D'accord, il ne faut pas être en jeans délavés avec des running shoes pour pouvoir être un criminel. Les plus grands criminels étaient en cravate. Et ça, ce sera quelque chose que je continuerai à rester bouche bée devant.
C'est très important de connaître son histoire, de s'enlever le nez du cul du présent, comme disait Falardeau, puis de regarder ce qu'ils ont déjà fait dans le passé, de regarder toutes ces corruptions qui ont été là et de croire qu'aujourd'hui, ça n'en est pas une. Effectivement, c'est questionnant de la part de ceux qui ne se questionnent pas parce que regardez que l'histoire.
C'est rendu une religion. Si tu ne crois pas à ce qui est dit au niveau des médias de masse et du gouvernement, tu es un bandit. C'est comme...
C'est l'inversion totale.
C'est l'inversion totale. Alors, sur cette question et ce questionnement et cette réflexion, je vous quitte et à bientôt. Donc, merci à tous d'avoir été là.